Bonsoir et merci d'être présent à ce dernier, en parallèle avec un autre café littéraire de cette première journée. Démarrage du festival, on a eu de la chance, on nous promettait de la pluie, il y a du soleil. On a eu plein de collégiens et de lycéens pour la remise des prix imaginales des collégiens et des lycéens. Et ils nous ont montré qu'ils avaient vraiment lu les bouquins, vu les questions qu'ils posaient, en tout cas au prix où j'ai assisté. Et puis, on a une couverture médiatique qui, visiblement, est plus importante que les autres années. Donc, notre bonheur est complet. Et on a récupéré, y compris les naufragés de la SNCF, puisque un train avec une dizaine de collaborateurs, traducteurs et auteurs est resté en rade. Mais heureusement, on nous a ramenés à Paris, réexpédiés par un autre TGV. Finalement, tout est réussi. La technique ne nous a pas totalement lâchés. À part cette petite présentation inutile, mais qui me permet de reprendre mon souffle entre deux réunions et deux débats, je voudrais accueillir ce soir quatre auteurs. Alors, vous avez bien vu le titre, « Ailleurs ou demain », petit clin d'œil pour ceux qui connaissent une célèbre collection de science-fiction créée en 1969, « Ailleurs et demain », c'était juste où. Et puis, là aussi, le titre que nous avons choisi, « Futur à gogo », vous avez bien compris que vous êtes dans un café littéraire de vampires. Eh ben non, vous pouvez aller à un autre débat. Ici, c'est pour parler de science-fiction qu'on a réuni quatre écrivains. On va commencer tout simplement de droite à gauche. On ne va pas se faire le truc sexiste de commencer par les femmes. Vincent Gessler, tout d'abord, auteur de langue française, néanmoins de nationalité suisse. Donc, on va dire étranger, mais enfin bon, voilà, écrivain de langue française. Vincent Gessler, qui est arrivé l'an dernier avec un roman, il y a deux ans maintenant,
il y a deux ans,
qui s'appelle Sinis. Et il a eu visiblement un excellent accueil, lectorat, critique, et y compris, si je me rappelle bien, vous n'auriez pas eu un prix, Vincent Gessler?
Le prix Julien Berlanger et le prix européen des Utopiales en 2010.
Pas mal, quand même.
C'était très agréable.
Pas mal. Et je crois savoir que vous étiez dans une sélection d'un prix littéraire...
Oui, j'ai suivi l'année passée ici pour le prix lycéen des Imaginales, auquel j'ai été nominé et auquel j'ai fait beau deuxième.
C'était chaud
là-haut. Notre-Dame, pour le coup, c'était très bien.
Voilà, donc c'était chaud pour un peu ce troisième prix. C'est dire à quel point le livre a quand même été extrêmement bien accueilli par le public. Et puis là, vous nous revenez pour un tout nouveau bouquin, visiblement pas du tout le même ton, plus
non,
éclaté.
Au contraire.
On va en parler. Ouais. On va justement en parler. Un deuxième roman, toujours à la Talente, qui visiblement a l'air satisfait tout, et décidé à être votre éditeur. Donc on va en parler. Laurence Senner, ben là aussi, alors là, un très gros roman. C'est vous qui allez nous en parler, parce que je me vois mal, sans démagogie, vous interroger de façon précise, pour une raison très simple, c'est que je l'ai reçu hier. Donc voilà, j'ai regardé, je me suis dit, même la nuit ne suffirait pas. Donc ben, vous allez être obligé d'expliquer un petit peu ce qu'est ce roman que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais dont tous mes collaborateurs, ceux qui ont vu les épreuves, en tout cas, me disent grand bien. Donc, et puis la Talente en général. Voilà. La Talente, en général, est une maison qui sait choisir ses livres. Alors là, on est reparti, j'allais dire chez Bragelonne, puisque vous avez publié deux romans de science-fiction, de space opéra, chez Bragelonne, Adrialan Russo. Et puis là, vous nous revenez avec un recueil de nouvelles qui est situé dans le même univers.
Voilà, parce que le libraire l'a oublié.
Il est à la librairie, mais il arrivera demain. Ben voilà l'explication, je le cherchais dans ma pile. Comme quoi, même un festival relativement bien organisé, parfois a quelques soucis. C'est-à-dire que le livre qui est arrivé un peu tardivement est resté à la librairie, sera donc sur les étals demain matin. Là aussi, on va en parler. Bon, au moins, il se situe dans cet univers de space opéra. C'est une, on ne va pas dire un spin-off, c'est pas exactement ça, mais des nouvelles situées dans le même univers, on en dira un mot aussi. Et puis enfin, Lucas Moreno, qui publie avec singulier pluriel son premier recueil de nouvelles. Lucas Moreno, on peut dire qu'il a fait plusieurs choses dans le domaine. En particulier, il a animé un podcast littéraire qui avait d'ailleurs été nominé à plusieurs prix, enfin, en tout cas à deux prix, il me semble, littéraire. En tout cas, trois, ben, voilà, à chaque fois, je sous-estime ces auteurs. Et qui avait été donc très remarqué, qui avait eu un vrai écho. Puis à un moment donné, Lucas Moreno, mais on comprend pourquoi, bien à fermer boutique tout simplement parce que ça prenait beaucoup de temps et qu'à un moment donné c'est bien de faire pour les autres et merci pour le travail accompli. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il avait été partenaire des Imaginales il y a quelques années justement parce qu'on trouvait que c'était intéressant comme nouvelle forme de faire de nouvelles façons de faire connaître la littérature. Et là on a donc des nouvelles qui en majorité sont des nouvelles de science-fiction, mais qui parfois se situent dans un autre cadre des littératures de l'imaginaire. On en dira un petit mot. Lucas Moreno, qu'on avait repéré aussi avec des premières nouvelles, à l'époque où j'avais le plaisir de diriger une revue de science-fiction qui s'appelait Galaxy, qui s'appelle toujours, mais qui n'est plus la revue que je dirige. Je me souviens qu'avec Jean-Claude Dunac, il avait été moins une qu'on publie, et puis on a passé la main, ça s'est arrêté. Donc il est parti ailleurs, il a publié entre autres à Bifrost et dans d'autres revues. Le principal, c'est que les auteurs de talent soient publiés. Voilà. Après cette brève présentation, on va peut-être se tourner vers celui qui est déjà un vieux routier avec deux romans de l'écriture, Vincent Gessler. Alors Sinis, on était complètement, pour rappeler à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, dans un univers post-apocalyptique. Une catastrophe avait plus ou moins eu lieu, même plutôt plus que moins, et on suivait un peu les déambulations d'un personnage, il y en a deux en fait, mais et des personnages secondaires, qui dans cet univers essayaient plus ou moins de s'en sortir. Pourquoi vous aviez choisi comme premier roman un univers post-apocalyptique ?
C'est un univers qui m'a toujours fasciné, j'avais une formation dans l'archéologie, dans l'histoire, et pour moi, les choses ont toujours fonctionné de pair avec la science-fiction. J'ai toujours eu le même vertige dans la science-fiction que dans mon rapport à l'histoire, surtout l'histoire antique. Et la transposition dans un monde post-apocalyptique, une histoire, ça me permettait d'avoir exactement le même vertige. Au fond, je me situais à notre époque, mon point de vue par rapport à ce que je peux avoir maintenant sur les anciens romans. Et en me projetant dans le futur, l'ancien roman, c'est moi, finalement, aujourd'hui, en 2012, enfin à l'époque, en 2010. Et en me propulsant dans le futur, je parvenais à garder ce rapport au temps, ce rapport au passé. Et à faire d'une certaine manière table rase de toutes les références. Et c'était paradoxalement un moyen pour moi, par la bande, de ramener plein de références, classiques en l'occurrence.
On attend surtout d'un jeune auteur qui, quand même, veut faire une carrière, veut être reconnu, que quelque part il s'inscrive dans une continuité, surtout lors de ses premiers romans. Et vous arrivez avec Mimosa, un roman complètement éclaté, à la limite plutôt, comment je pourrais dire ça ? D'après ce que j'en ai lu, parce que je n'ai pas eu le temps non plus de le terminer, décidément, je n'ai pas de chance sur ce café. Mais c'est ça, quand on invite des auteurs qui sortent des romans relativement récents, on n'a pas toujours le temps de lire les derniers ouvrages. Par rapport à Sinis, visiblement, vous avez des personnages historiques.
C'est délicat de parler de personnages historiques. En fait, j'ai envie de prendre un autre contre-pied, de dire plutôt que par rapport à Sinis, parce que les deux, c'est vrai, peuvent se lire en parallèle, on peut les comparer par contraste. Sinis, c'était toute ma culture classique. C'est vraiment mon héritage de lettres classiques. J'ai parlé d'histoire antique, d'histoire médiévale. C'était ça que j'ai redigéré et que j'ai voulu rendre à travers l'histoire de Sinis. Mimosa, c'est ma culture d'aujourd'hui. C'est ma culture contemporaine. C'est beaucoup de références à la musique, aux séries télé, au cinéma, aux jeux vidéo. Et des références qui sont pour moi assumées et que j'avais vraiment envie de partager. Et c'était pas possible dans le cadre de Sinis de faire ces références-là. Et en plus, je voulais aussi, au niveau stylistique, explorer autre chose. Sinis, c'était quelque chose de très travaillé. J'avais un scénario, je m'étais tenu. Et pour Mimosa, j'ai voulu partir sur quelque chose de très différent, travailler sans scénario, sans filet, et vraiment travailler la jubilation. Me laisser guider tout au long de l'écriture par ce sentiment de jubilation et voir où ça allait me mener. Et j'étais très content de voir que c'était finalement cohérent et en plus qu'on a pu apprécier.
Peut-être pour se plonger dans l'univers, Sinis, un tout petit extrait. La neige et la glace ont commencé leur transformation. Là-haut, des fissures se forment, de l'eau s'y engouffre et forme des rigoles, des rivières sous neige qui drainent leur propre lit jusqu'en bas, arrosant les rêves des dormeurs. Sin reste assis un long moment, goûtant la pesanteur de ses membres. Le froid le rattrape et, après quelques mesures d'hygiène appropriées, il retourne dans sa couche. Les couvertures encore chaudes frémissent lorsque Hack se redresse à demi à son approche. Il s'est réveillé lui aussi. Sa truffe émerge entre les peaux, contre les flancs de l'homme. C'est humide et sec en même temps et doux. Sin niche son visage contre l'encolure chaude du loup, caressant sa nuque, grattant derrière les oreilles. La tête d'Hack oscille et devient lourde. Puis il change de position, enfouit sa tête entre ses pattes et reprend sa longue rêverie en soupirant. Dis donc, il a des loups vraiment très domestiques, ce personnage.
Alors, il fonctionne en duo avec un loup. Il y en a un seul, je vous rassure. C'est un trappeur. Donc, là, il se trouve au début de la cité, au cœur de l'hiver, puisque les hivers sont longs, lourds, il neige des mètres et des mètres de neige. Et il se met en état d'hibernation en utilisant certaines drogues. Et le loup hiberne avec lui, dans un abri. Et donc, ils ont cette relation très fusionnelle, l'homme et l'animal. Et ce loup est un peu particulier, puisqu'on se rend compte assez vite qu'il est rafistolé, qu'il a le pelage qui est greffé de bandes synthétiques. Et il a apparemment, il vit très vieux, ce qui est plutôt inhabituel. Et je vais pas en dire plus.
C'est bien quand on est en train de préparer la suite avec l'auteur. Vous avez vu qu'il vous fait, il se précipite et il dit mais je ne peux en dire plus. C'est le seul clou, on est là, on essaie de rattraper la situation. Non, plus sérieusement, Andrea Lorusso, vous avez donc publié un diptyque de space opéra. Qu'est-ce qui vous a amené, alors j'allais dire, c'est pas la tradition française, mais bon, peut-être que justement, vous n'êtes pas d'origine française, vraiment, vu à Bruxelles, mais bon. Vous êtes aujourd'hui de langue française, mais vous êtes d'origine...
Je suis italienne, voilà. Oui, je suis moyennement de langue française.
Bon. Vous écrivez en italien ?
Le premier livre, je l'ai écrit en italien, il a été traduit par une amie. Le deuxième, je l'ai écrit à moitié en italien, à moitié en français, il a été revu par ma mamie, et maintenant j'écris en français.
Voilà. Pourquoi vous avez choisi le space opéra ? Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le space opéra ? Le souffle, le fait de partir complètement ailleurs, le fait de pouvoir brosser des univers vastes, voilà, qu'est-ce qui vous attire ?
En fait, c'est une histoire de société. C'est la possibilité de voir une société qui est complètement différente de la nôtre. Il s'agit toujours d'êtres humains, mais qui ont évolué d'une autre façon. Comme j'ai habité moi-même dans différents pays, pourtant très proche, je suis fascinée par les incompréhensions et les différences minimes qui parfois portent à des conséquences très graves. Et dans mon livre, les différences sont loin d'être minimes parce que c'est une société qui a évolué d'une façon complètement différente. Et entre autres, là, j'ai voulu jeter une petite pierre aux hommes écrivains de science-fiction classique. Je ne parle pas des jeunes. Qui étaient capables d'inventer des mondes, des moyens de transport, etc. Mais quand vous prenez la voie martienne d'Asimov, madame, elle fait toujours la vaisselle, alors que les hommes décident la grande aventure. Et je voulais aussi décrire une société qui voit les rapports entre ses membres d'une façon différente. Elle n'est pas meilleure, elle est différente. Ce n'est pas du tout une utopie, c'est un monde cruel. Mais c'est différent. Voilà.
Monde cruel, c'est pas une utopie, on va voir à quel point c'est différent. Elle enfila les bottes en silence, recouvrant la sensation qu'elle croyait oubliée de la fibre de Daiban, rêche, mais pas désagréable au toucher. Elle les réduisit à la bonne taille, en entourant chaque pied des lacets de corde utilisés pour serrer les mollets. Elle guida ses compagnons à travers les quartiers du centre, très animés, et parcourut non seulement de modules, mais aussi de piétons. Bars, clubs, restaurants, bordels et autres établissements, ouverts toute la nuit, étaient fréquentés jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ils avançaient d'un bon pas, sans courir, mêlés à la foule composée de gens, de races et de planètes diverses, avec toutes les couleurs d'épiderme imaginables, naturelles ou dues à l'application de fond de teint, et avec tous les styles de vêtements dans tous les types de tissus artificiels. Dans ces quartiers du centre, fréquentés par la bonne société de la ville, ils étaient en sécurité. Les patrouilles n'étaient pas composées d'hommes des services spéciaux, mais d'agents de police qui avaient ordre de rester courtois et prévenants en toutes circonstances et qui ne les arrêteraient pas sans raison valable. Les riches touristes et la crème de la société locale étaient traités avec les égards qui leur étaient dus. Bien que l'État et Fimoda fussent à peine mieux vêtus que des mendiants selon les critères de Wai, on ne pouvait jamais savoir s'il ne s'agissait pas de diplomates étrangers pris par la fantaisie d'adhérer à une secte de renonciateurs et si, sous les rudes pantalons de coton, ne se cachait pas quelque potentat d'une planète mal connue et son escorte. Alors voilà, en quelques paragraphes, on est plongé déjà Daiman, et on a des mots qui sont différents, des produits différents. Et puis j'ai l'impression, quand je lis ça, pas tout à fait, mais qu'on est dans le bar de Star Wars.
Ça pourrait. Ça, c'est le monde, celui qui est décrit là, c'est le monde, une projection future d'une autre. Et les personnages qui les traversent viennent par contre de l'autre planète, donc ils sont perdus dans ces bruits, dans la musique qui pour eux est absolument incompréhensible, c'est un bruit. dans les images holographiques de publicité qui pour eux est absolument incompréhensible parce qu'ils ne comprennent pas la publicité. Ça sert à quoi la publicité? Si on produit, c'est dont on a besoin. Et puis il faut pas faire des publicités, on mange quand on a faim. Et donc c'est un contraste, voilà.
Vestige, Laurence Senner. C'est amusant parce que quand on voit, encore une fois, je l'ai reçu hier, donc à ma décharge, je pouvais difficilement le lire, mais j'ai jeté un œil et j'ai vu que, d'après la présentation de votre éditeur et quelques petits extraits que j'ai regardés, on a l'impression qu'il s'agit un petit peu de... pas du tout le même univers, pas la façon de le traiter, mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec Prométhéeus et la rencontre avec une civilisation extraterrestre? Ça tombe vraiment, vous l'avez fait exprès, vous avez planifié ça?
Bien sûr, je l'ai fait exprès. Oui, non, bien sûr, ça parle de ça, effectivement. Surtout la façon dont deux civilisations appréhendent la réalité. Et une civilisation humaine qui appréhende la réalité à travers la science, parce que c'est plutôt des personnages qui sont scientifiques en fait dans le livre, et une civilisation, mais ça on verra surtout dans les autres tomes, parce que là pour l'instant c'est voilà.
Oui, c'est une trilogie, précisons-le.
Donc voilà, je préfère pas. Mais oui, effectivement, ça parle de rencontre, ça parle surtout de communication en fait entre des espèces.
Petit extrait là aussi, je devine qu'il s'agit d'un terrien, je me trompe peut-être.
Oui, il y a beaucoup de terriens.
Beowulf Müller avait passé une sale nuit, au terme de laquelle il se retrouvait à piloter une vulgaire navette rampante au lieu d'un tripode flambant neuf. Il bougonna encore quelques mots incompréhensibles et Fred l'abandonna à son sort. Le véhicule longeait les baraquements. Quelqu'un s'efforçait de consulter son planning. À la fin du jour, la cloche sous laquelle les foreuses entameraient leur progression serait hermétiquement scellée. Ainsi, tout contact avec l'atmosphère gémienne serait évité. En parallèle, le laboratoire d'analyse devait être opérationnel. Au bout de 15 minutes, la chenillette s'arrêta sur une plateforme aménagée dans le névé. La bordureste du glacier se déployait devant eux, pareil au dos d'un gros animal paresseux. Le reste des scientifiques s'affairait autour d'une large structure en forme de dôme, la fameuse bulle qui allait abriter le forage, dont la mise en place dans les jours précédents avait été supervisée par Pete Donaldson et Adam Wilbur. Un véritable building, plus de 20 mètres de haut pour 60 de diamètre, deux salles d'isolement, de quoi garantir un accès sécurisé aux machines et aux humains et permettre l'évacuation de la glace. Ambre fut heureuse de quitter l'exiguïté de l'habitacle. Elle détestait la promiscuité. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de promiscuité sur toutes ces planètes?
Disons que dans l'univers de Vestige, en fait, on se trouve sur une planète gelée. Et en fait, tous les humains qui ont décidé d'émigrer là-bas doivent vivre, en fait, malgré les conditions climatiques, en fait, ils ne peuvent pas vivre en extérieur, ils sont obligés de vivre dans des aménagements spéciaux, etc. Oui, effectivement, il y a certainement un problème de promiscuité dans cette colonie. Bon, ce n'est pas le thème principal du livre, colonisation sur un monde gelé, en fait, où on découvre en fait, des vestiges d'une civilisation qui est millénaire, en fait, qui a laissé en fait, des artefacts, et on ne sait pas où ils ont passé. En fait.
L'idée est une idée un peu classique en science-fiction, le traitement l'est sans doute moins, mais ça me fait penser, c'est quand même un compliment quelque part, implicitement, ça me fait penser un peu à la problématique de Frédéric Paul, l'auteur américain.
Vous l'avez dit? Non, ça, je
bien, ben alors, comme quoi les grands thèmes de SF et les auteurs qui ont envie de parler d'espace, bon, c'est une série de romans des années 60-70 où ce grand écrivain américain, aujourd'hui décédé, avait imaginé justement des terriens qui, à un moment donné, arrivaient sur une planète. Là, ce n'étaient pas des vestiges, mais c'était des vaisseaux. Sauf qu'ils étaient, leur fonctionnement était incompréhensible. Il suffisait d'appuyer sur le bouton et on ne savait pas ce qui se passait. Ou on allait être désintégré dans l'espace, ou on allait arriver dans une planète, on ne pourrait pas en revenir, ou alors on allait arriver sur une planète où la richesse vous tendait les bras et vous alliez revenir en appuyant une deuxième fois sur le bouton à votre destination de départ, riche à milliards et devenu un nouveau Mabab de la Terre. Mais c'était, pour tous les aventuriers, c'était les chercheurs d'or. Voilà, c'était ça. Mais c'était aussi des vestiges, mais là, des vestiges qui pouvaient permettre de les utiliser, même si on n'y comprenait rien.
Là, il y a bien des vestiges, mais on ne sait pas du tout les utiliser, et ils ne marchent pas, et on n'arrive même pas à y accéder. Donc on essaie d'y accéder. Mais...
Le mystère est encore plus important.
Oui.
Bien. Eh bien, Luca Moreno, vous avez pourtant des exemples devant vous. Vous avez Adriana Lorusso, vous avez Laurence Sunner, vous avez même votre compatriote Vincent Gessler. Ils écrivent des romans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous prend à débuter petitement cette carrière par des nouvelles ?
Oui, je ne sais vraiment pas ce qui me prend, on n'arrête pas de me dire ça. Et étant donné qu'on devient riche et célèbre avec les nouvelles, c'est bien connu, il n'y a aucune raison d'écrire des romans. Non, en fait, des projets de romans, j'en ai depuis pas mal de temps, et puis je ne sais pas ce qui se passe, je les commence et je ne les finis pas. Je ne sais pas comment dire, dans la nouvelle, je me retrouve pas mal, parce que j'ai une idée, je l'exploite à fond, je peux... La longueur est flexible, ça peut être une nouvelle de 20 000 signes, de 30 000 signes, parfois ça peut aller jusqu'à 80 000 signes. Et puis j'ai l'impression de pouvoir faire vraiment le boulot à fond, en tout cas par rapport au projet que je me propose. Je fais les recherches nécessaires, je fais le travail d'écriture, je fais le travail de réécriture, et au bout d'un moment j'ai l'impression d'être allé jusqu'au bout. Lorsque j'ai des projets plus gros, eh ben, j'ai de la peine à finaliser tout simplement. Mais là, en l'occurrence, je suis en train de travailler sur deux romans que j'espère finir cette fois.
Voilà. Mais on va attendre avec beaucoup d'intérêt, mais on va commencer justement par découvrir. Alors c'est vrai que ça fait pas, c'est pas tout récent, vous avez déjà écrit des nouvelles il y a peut-être 7-8 ans, les premières publiées à peu près.
Alors celles qui sont publiées ici,
il y a des inédits, il y a des revues, des textes.
Stricto sensu, c'est que des rééditions, mais certaines nouvelles ont été publiées dans des petites structures avec tirage anecdotique, etc. Donc ils ont peut-être que pour les Français, il y en a certaines qui sont inédites parce qu'elles n'étaient pas arrivées en France et vice versa, publiées en France et pas arrivées en Suisse.
Petit extrait. La salle était sombre et glacée à l'image des IA. Assis en tailleur à même le sol d'une cabine pressurisée, l'homme aux grands yeux clairs et aux cheveux roux détaillait le globe terrestre à travers un hublot. Un frisson le parcourut. Malgré la gravité artificielle et la température ambiante, soigneusement calculée par des hôtes peu habitués aux contraintes d'un corps humain, il se sentait mal à l'aise. Clovis Neuenberger et lui-même étaient sans doute les premiers de leur espèce à fouler le sol de la station orbitale, et il lui semblait que tout dans ce cube gris aseptisé avait été étudié pour instiller la solitude et l'appréhension dans le cœur d'un homme. C'était stupide, bien sûr. Les intégrales, les IA non corporalisées, par opposition aux biotech humanoïdes qui n'étaient que leurs exécutants, ignoraient l'art du sadisme. Et puis l'installation Cron 27, comme les autres, n'était pas censée accueillir de visiteurs organiques. Sans le statut spécial du docteur Neuenberger, jamais il n'aurait pu pénétrer dans le satellite, encore moins participer à l'expérience. Le professeur avait insisté pour l'embarquer dans ce qu'il considérait comme le projet techno-scientifique le plus capital depuis l'explosion des IA fortes. Il avait suffi que les intégrales évoquent l'éventualité d'une collaboration, 10 mois auparavant, pour que le doc s'enthousiasme et tâche de les convaincre. C'est votre meilleure chance, croyez-moi. La dernière pièce du puzzle, le maillon qu'il nous manquait pour achever votre thérapie. La mémoire, voilà le maître mot. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Les intelligences artificielles, c'est pas un peu froid, justement? Est-ce que, quand on écrit des nouvelles de science-fiction, on n'est pas parfois amené à écrire des textes qui, quelque part, nous projettent dans des mondes où l'humain est mis à distance?
Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que, en fait, moi je pense que c'est une des forces de la science-fiction. Je ne sais pas comment appeler ça, la déshumanisation, le transhumain, enfin, il y a plein de termes savants et académiques pour définir ça. C'est une des choses que la science-fiction permet de faire. Bon, la prospective à court terme, à long terme, un regard sur notre société simplement... opposons, disons, une société future de façon allégorique, mais notamment aussi aller au-delà de l'humain, c'est-à-dire pas qu'est-ce qui se passe pour un être humain dans un cadre culturel ou technologique complètement différent, mais qu'est-ce qui se passerait pour autre chose que de l'humain. Mais en l'occurrence, moi, à ce titre-là, je ne me considère pas comme un auteur de science-fiction hard, parce que j'en écris pas, je n'ai pas la prétention de le faire, les anglo-saxons le font très bien. Là, en l'occurrence, j'étais parti d'une idée toute simple, qui était l'idée de raconter l'histoire d'un enfant qui devait supporter, disons, l'agressivité de son père, les coups, la violence. Et puis, mon idée, tout à coup, c'était, je suis parti d'une idée toute simple, cet enfant est investi d'une énergie et d'une force qui lui permet de tenir tête à son père. Donc, au début, je suis parti dans une idée plutôt fantastique. Tiens, ça lui arrive comme ça dessus, et puis ça lui permet de se défendre contre son père. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ça dans un cadre science-fictif. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à l'idée d'une société future où les IA fortes ont explosé et gouvernent le monde. Et puis, notamment, l'humanité connaît une évolution technologique qui s'emballe. Du coup, on sait comment voyager dans le temps. Et par le biais de ce processus de voyage dans le temps, l'adulte qui a fait tout un chemin psychologique, intérieur et tout, investit le corps de lui-même enfant grâce à cette technique de voyage dans le temps. Et là, ça lui permet à l'enfant d'avoir la force nécessaire pour tenir tête à son père. Donc du coup, la science-fiction, c'est un prétexte. Moi, je suis un grand amateur de science-fiction, j'en lis depuis toujours, et c'est vrai que la première chose qui me vient en tête, c'est peut-être des structures de fantastique, de science-fiction. C'est entre guillemets la facilité, mais cette nouvelle aurait pu être écrite autrement que dans le cadre purement science-fictif.
Je me demande quand même, alors, bon, pour ceux qui sont assez jeunes, qui ne le savent pas, j'ai dirigé pendant plus de 10 ans une revue de science-fiction. Et donc j'aime la science-fiction. Même si aujourd'hui je m'intéresse aussi beaucoup à la fantasy, que ce soit la fantasy épique ou urbaine. Et à force de lire des genres différents de l'imaginaire, je me suis posé une question, et je pense à plutôt répondre, vous me direz si vous êtes d'accord. Je me dis que la fantasy a tendance à plutôt parler des êtres humains et de leurs sentiments. La peur, la colère, la haine, etc. C'est-à-dire ces grands sentiments, ces grandes valeurs qui sont éternel entre guillemets, mais en tout cas qu'on retrouve dans des sociétés et civilisations totalement différentes. Il y a toujours des gens qui veulent prendre le pouvoir, c'est pas nouveau. Alors ils procèdent différemment de Tamerlan ou les grands conquérants de l'époque ou celui de César, mais sur le fond c'est les mêmes. Quand on veut s'emparer d'un pays, quand on veut s'emparer d'une ville, quand on veut s'emparer d'une entreprise, finalement les ressorts profonds sont sur le plan humain les mêmes, même si les sociétés ont profondément changé. La science-fiction telle que je la vois, c'est beaucoup plus une littérature qui, même s'il y a des personnages, va nous parler du collectif. Non plus de l'individu, de ses sentiments, mais du collectif, de l'avenir de l'humanité. Parce que dans la fantasy, même si le héros va sauver le royaume, c'est le héros qui est le vrai sujet. Parce qu'on sait bien qu'un héros seul ne sauve pas un royaume dans la réalité. Donc est-ce que le fait d'écrire plutôt de la science-fiction que par exemple de la fantasy, est-ce que c'est parce que vous vous intéressez plus aux grandes organisations, vous vous intéressez plus à l'avenir comme perspective, vous vous posez plus des questions collectives de société que ce que font les auteurs de fantasy qui est souvent s'intéresser à tel ou tel aspect du sentiment humain, de la façon dont les humains ont de résoudre les grandes aspirations et les grandes inquiétudes?
Je ne sais pas comment je vais répondre à ça. C'est longue la question.
Alors, mais disons, soyons plus courts. Pourquoi, quelque part, vous écrivez de la science-fiction? Est-ce que pour vous, la science-fiction, ce n'est pas une littérature du collectif? Je la résume.
Alors, bon, par rapport à ce que vous avez dit concernant la fantasy, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la fantasy, c'est effectivement une littérature des archétypes, du temps circulaire, de ce qui s'est passé, de ce qui n'arrête pas de se passer dans les sociétés humaines. Et à ce titre-là, en suivant la quête de tel héros qui accomplit telle et telle tâche, qui surmonte telle et telle difficulté, quelque part, c'est un petit peu un symbole des difficultés que les sociétés dans leur ensemble peuvent éprouver. Enfin, c'est une analyse rapide comme ça. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste de la fantasy. La science-fiction, pour moi, si on devait la comparer à la fantasy, aurait plutôt, en termes de spécificité, une tendance, une facilité à fonctionner sur le plan linéaire. Pour moi, la fantasy, ça tourne un peu en rond. C'est pas du tout dépréciatif, hein, mais ça tourne en rond. Disons, pour moi, c'est le temps circulaire, c'est les archétypes, c'est les choses qui se passent et se repassent et se repassent. Alors que la science-fiction permet vraiment ce tremplin d'aller voir dans l'évolution et puis ce qui se passera dans le futur. En l'occurrence, moi, si j'écris de la science-fiction, c'est un peu par défaut, parce que c'est une littérature que j'adore, que je lis, que je dévore. Et puis, automatiquement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis appuyé sur les structures propres à la science-fiction, les outils narratifs que m'ont apporté la science-fiction pour écrire. C'était plutôt un rempart, c'était plutôt quelque chose qui me permettait d'avancer, que, je ne sais pas, un véritable choix thématique. J'aurais pu écrire de la littérature générale aussi, mais il se trouve que voilà, ce que je connaissais, c'était la science-fiction, donc je me suis lancé là-dedans. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce que j'écris, ben, je suis de moins en moins stricto sensu dans la SF, plutôt dans du bizarre, fantastique un petit peu, mais même pas forcément, plutôt polar, quoi. La science-fiction, parce que c'est ce que je connaissais et c'est ce que j'adorais et que je continue d'adorer. Maintenant, je me sens un petit peu plus à l'aise dans mon écriture. Je pense avoir acquis certains outils, et donc, bah, après 10 ans de d'écriture, je me sens plus libre pour pouvoir écrire sans forcément être aidé par, par ces codes narratifs, ces structures.
Voilà. Oui, Vincent Gessler.
Je voulais rebondir sur la question des sentiments. Moi, je ne me reconnais pas dans cette description de la fantaisie qui accaparerait les sentiments, parce que je crois qu'on peut les exprimer partout en science-fiction. Laurence le fait pas mal dans Vestige. Donc, les personnages de Tashima sont proies aussi avec leurs émotions. Enfin, moi, je trouve que, je sais pas, si on lit des fleurs pour Algernon, par exemple, de Daniel Keith, les sentiments sont très très forts. Et j'ai pas le sentiment qu'il y a un genre qui arrive à avoir la mainmise sur les émotions ou les sentiments. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a certains types de liens qu'on peut avoir avec les gens qu'on trouve plus en fantasy qu'en science-fiction. Par exemple, la famille. Je suis frappé à quel point beaucoup de textes de fantasy, peut-être ça tient au fait des structures un peu monarchiques qui sont mises en place souvent. On a un roi, une reine, la princesse, les cousins, etc. On voit bien dans Game of Thrones, par exemple, tous ces rapports de filiation qu'il peut y avoir et la complexité d'une société basée sur les rapports de sang et de famille. Et j'ai l'impression que la fantasy, c'est une spécialité d'explorer ces rapports-là, de famille, très souvent. Alors, c'est pas sans doute l'unique chose, mais c'est le sentiment que j'ai alors que la science-fiction, paradoxalement, par rapport à la question initialement posée, elle explorait plus facilement le collectif à travers des sociétés fictives, à travers des fictions spéculatives, à travers des problèmes de colons sur une planète et leur organisation, comme dans Vestige, ou comme dans Tashima d'ailleurs. C'est intéressant de voir la porosité qu'il y a entre nos deux univers de ce point de vue-là. Et peut-être vous aurez envie de rebondir aussi là-dessus.
Ce qui est quand même frappant, c'est que dans beaucoup de romans de science-fiction, il n'y a pas de famille, en effet. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants, beaucoup, il y a peu d'enfants, surtout dans le space opéra ou dans le planète opéra. Il y a quelques exceptions, mais peu. Et j'ai quand même l'impression que ce sont plus des héros coupés du clan, coupés de la famille, coupés de la société. Ils sont dans une société où c'est des individus, beaucoup plus. Alors c'est comme ça que je le perçois. Et c'est donc pas la même littérature. Parce qu'une littérature où on trouve des systématisations, il y a toujours des questions à se poser par rapport à ça. Alors, je ne sais pas comment peut-être que vous ne l'êtes pas posé, que vous écrivez, tout simplement. Laurence Sonner.
Disons que, bon, par rapport à un lien avec Vestige, c'est que moi, j'ai plus axé sur les personnages. C'est-à-dire, justement, comment ils vont réagir par rapport à une situation. Et je pense qu'il est plus... Bon, il y a un petit côté scientifique, etc., dans le bouquin, mais c'est plus la relation des personnages vis-à-vis d'un événement qui se passe, ou bien la relation entre eux. Notamment, vous parlez de famille. C'est vrai que mes familles dans mon bouquin sont un peu tronquées, mais il y a quand même un père et sa fille qui ont un lien très fort dans le bouquin. Et la fille qui traverse une crise d'adolescence au fil de l'histoire, donc je pense qu'il y a quand même un lien avec la famille. En même temps, c'est vrai que c'est des colons, ils sont expatriés. Donc ils doivent reconstruire une société, en fait, dans justement Vestige. C'est-à-dire c'est les colons qui sont installés depuis une centaine d'années, mais qui n'ont pas encore créé de société. Et on voit l'émergence du premier nationalisme, en fait, sur cette planète, à travers les indépendantistes, qui décident, eux, de fonder une société sur des bases différentes, etc. Donc, voilà. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vrai que pour moi, la science-fiction... je pense toujours avant tout aux personnages, c'est-à-dire comment les personnages vont réagir par rapport à telle ou telle situation. Donc c'est comme ça que je considère la chose.
Et vous, Adrienne Rousseau, dans vos romans ou vos nouvelles, comment vous voyez les choses?
Pour le premier roman, c'est une histoire de société, exactement comme tu as dit. Donc c'est pour ça que le titre n'est pas le titre d'un personnage, ne fait pas référence à un personnage, mais à un monde. C'est l'histoire de ce monde. Là-dedans, il y a des personnages, ils bougent, ils ont des aventures, ils font ci, ils font ça, mais c'est... Et puis, je crois que j'ai évolué, et pour le reste, c'est plutôt des histoires de personnages. Surtout les nouvelles, c'est des histoires de personnages.
Pourquoi finalement, au moment où la fantasy urbaine ou épique marche très bien, vous avez décidé, ça marche aussi quand les romans sont bons, je vous rassure. Ce n'est pas des fois des chiffres de vente, il y a des romans de science-fiction qui se vendent très bien. Mais c'est quand même plus difficile aujourd'hui de toucher un très vaste public avec des romans de science-fiction. On peut même faire d'excellents romans et avoir des difficultés à les vendre. Ou des recueils, la situation est peut-être encore plus difficile. Est-ce que vraiment, dans le cadre de l'imaginaire, la science-fiction, c'est vraiment votre truc? Et si oui, pourquoi?
Oui, pour moi, c'est mon truc. Et je dois dire, je l'ai écrit. je n'ai pas pensé à, même pas à les présenter à un éditeur au départ. Je l'ai écrit parce que j'avais envie de l'écrire. Et la science-fiction est vraiment mon truc. J'aime bien le fantasy, j'ai beaucoup de livres de fantasy, mais la science-fiction, c'est mon grand amour. Disons que la science-fiction, c'est mon conjoint, et la fantasy, c'est mes petites aventures.
On le redira, c'est génial. Et vous, Laurence Sonner, vous avez écrit des nouvelles, ça, déjà, avant
Quelques nouvelles, ça.
Oui,
en fait, moi, je viens du monde de la bande dessinée, donc j'étais plus dans la bande dessinée. J'ai écrit énormément de nouvelles qui n'ont pas été publiées pour structurer l'univers de Vestige et de Quantica. Il y a une dizaine de nouvelles, en fait. J'avais utilisé ça justement pour placer l'univers, savoir ce que je voulais en faire, et que je ne voulais pas tout de suite me lancer dans un roman, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Bon, ces nouvelles ne paraîtront jamais parce que l'univers a complètement divergé, donc, c'est plus en rapport avec le bouquin. Par contre, c'était par rapport à la fantasy, c'est ça ?
Oui, parce qu'en plus, vous ne démarrez pas quelques nouvelles, et puis ensuite vous vous lancez dans une trilogie de Planète Opéra, et comme on commence à regarder le premier, je ne sais pas comment sont les suivants, mais on est à 570 pages.
Oui, bon. Moi, de toute façon, j'ai toujours aimé la science-fiction, je suis née dedans. J'aime pas trop la fantasy, à part certaines. Par exemple, j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Game of Thrones, mais disons que ce n'est pas mon univers, moi, c'est la science. Il faut qu'il y ait un lien avec la science. Et j'ai vraiment une fascination pour la science-fiction. Moi, je pense que, parce que j'ai une fascination pour la physique, l'astrophysique, l'astronomie, la biologie. Donc, je pense que j'ai voulu, comme je ne suis pas moi-même, je suis archéologue, mais je ne suis pas physicienne. Et je pense que c'est mon moyen à moi de parler de physique ou de thèmes scientifiques autres que l'archéologie. Mais dans Vestige, on parle beaucoup d'archéologie aussi. Donc. Mais la fantasy, bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc,
j'avais cru comprendre. Vincent Gessler, vous avez publié Sinis. On parlait de Futur à Gogo, c'était le titre de notre café littéraire. Ah, le futur que vous nous proposez, en tout cas celui dans Sinis, c'est pas gay. Hein.
Si, c'est pas mal. Parce que.
Alors, quand même, sans vouloir révéler trop de choses, le loup, c'est pas tout à fait un vrai loup.
Non, le loup, c'est pas tout à fait un vrai loup. Non, bah. Je ne sais pas si c'est vraiment un monde pessimiste. C'est vrai que c'est un monde qui a connu des blessures, une catastrophe, mais toutes les civilisations passent. Est-ce que c'est triste qu'il n'y a plus les Romains ? Est-ce que c'est triste qu'il n'y a plus les Égyptiens ? Ou la civilisation de l'Indus ? Non, c'est la vie, c'est comme ça. Ça passe. Et un jour, de nous, il ne restera plus que des traces. Après, comment nous, on va le gérer ? Ben...
Il y a toujours des Égyptiens, quand même.
Oui, il y a toujours des Égyptiens. Vous m'avez compris. Merci, Sébastien. Donc, les civilisations passent, et puis un jour, il n'y aura plus d'Égyptiens du tout. Et voilà. Et est-ce que c'est pessimiste de dire ça, ou de mettre le nez dessus ? Ben, moi, je ne suis pas sûr. Je pense que ce n'est pas forcément pessimiste, non. C'est les forces de vie aussi, que les choses changent. Et moi, ce qui m'intéressait dans un univers post-apocalyptique, c'était pas simplement de mettre le nez dans la ruine, mais que nous apprend la ruine, que après ça continue, que
ça reprend.
Il y aura toujours, tant qu'il y aura des êtres humains, des civilisations, et puis il y aura des choses hyper intéressantes. Et moi, ça m'intéressait de voir un moment où l'humanité fait un peu le point avec elle-même et se dit vers quoi je peux aller. Et je crois pas que ce soit pessimiste. Et d'ailleurs, je pense que le bon pendant, dans Mimosa, on trouve l'équivalent, c'est-à-dire on a une société où tout part en feu d'artifice, et à un moment donné, qui tombe en guerre civile. La vie, elle n'arrive plus à gérer sa propre violence, mais ça ne débouche pas sur quelque chose de nihiliste. Je pense qu'il y a toujours un horizon positif, qui est que ces sociétés ne s'éteignent pas, on continue, on change de forme, de culture, on change parfois dans certains récits cyberpunk, on change même de forme corporelle, et c'est ça que je trouve intéressant. En fantasy, c'est souvent des univers... Je me permets juste de faire un lien par rapport à la thématique qui a circulé un petit peu. En fantasy, c'est souvent des univers figés. Je ne veux pas être absolutiste, parce qu'on a plein de contre-exemples. Mais de manière générale, on a souvent des sociétés assez figées qui ont, après, qui fonctionnent avec des fractures, des révolutions, etc., qui sont résolues ou pas. Mais très souvent, il y a une espèce de... Finalement, c'est le temps du Moyen-Âge, un temps long, et des sociétés qui évoluent lentement. C'est intéressant aussi. Je n'exclus pas un jour d'en écrire. C'est un rapport à l'histoire et au temps qui est différent. C'est d'autres explorations. Et la science-fiction, elle explore vraiment le rapport au temps de notre époque, aujourd'hui. Quelque chose qui va vite, qui est en mutation, et où on est conscient, parce qu'on a pour la première fois les moyens de nous autodétruire un jour complètement, et donc de supposer qu'est-ce que ce serait un monde sans nous, et donc, par là, de revenir, mais qu'est-ce que c'est nous aujourd'hui ? Et donc toujours des questions sur notre identité collective, individuelle. Et comme c'est des questions qui me préoccupent dans ma vie, c'est donc naturellement que j'explore la science-fiction, mais pourquoi pas faire de la fantasy ou du fantastique ? C'est d'autres manières d'aborder d'autres thématiques.
Ouais, moi, je suis très attirée par le fantastique. D'ailleurs, les premières nouvelles que j'écrivais, c'était surtout du fantastique. J'avais peur de la science-fiction, en fait. Je me disais, mon Dieu, j'avais jamais écrit de la science-fiction, donc je faisais plutôt du fantastique. Mais ouais, voilà, ça sera, il y aura sûrement des liens avec le fantastique par la suite. Mais, d'ailleurs, il y a un petit côté fantastique.
vos personnages, ils sont dans une planète glacée. Vous avez mis en scène une planète glacée, où il fait vraiment très froid, donc il y a tous les problèmes que ça peut poser. Parce que vous adorez le froid ou au contraire parce que ça vous fait horreur ?
J'aime la mer, j'aime le froid. C'est-à-dire que j'adore m'inspirer au bord de la mer, j'adore la mer, c'est vraiment une chose d'inspiration. Mais pour travailler, je lisais en montagne pendant tout l'hiver. En fait, ça fait 4 mois que je passe mon hiver à 1800 mètres pendant 4 mois. J'aime le froid aussi parce que ça me réveille l'esprit. Voilà. Et puis c'est tout à fait. Oui, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai longtemps vécu en montagne. Donc,
Et vous, Adriana Lorusso, les univers de space opéra, les grandes sociétés, les grandes structures et l'avenir, ça vous fait rêver ?
Oui, ça me fait rêver, pas dans le sens d'utopie et de futur merveilleux, mais de possibles changements, comment les choses peuvent être autres tout en restant les mêmes, parce que les gens sont toujours les mêmes. Je n'ai pas d'extraterrestre, ça c'est un défaut, je sais, mais je vais en fabriquer prochainement. Mais je n'ai pas d'extraterrestre, c'est toujours des humains. Quelquefois, ils sont un peu extraterrestres comme caractère, enfin, mais sinon.
Et vous, Luca Moreno, l'extraterrestre, ça vous dit ?
Ah bah, j'ai l'impression de croiser tous les jours. Mais est-ce que j'en mets dans mes nouvelles intéressantes, hein.
Il est obligé de réfléchir pour savoir s'il met des extraterrestres ou des nouvelles. C'est quand même incroyable, ces écrivains.
Bah, il y en a quand même 9.
Bah.
Non, en fait, non, j'en mets pas en scène. Tout simplement, c'est pas tout ce que je veux dire, mais je parle de l'humain, quoi. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que si j'écris de la science-fiction, c'est par défaut. Donc, c'est pas. C'est, par rapport à ce qui a été dit par mes collègues tout à l'heure, c'est pas un choix. Délibéré, quoi.
Alors, pas d'extraterrestre, Adriana, pas d'extraterrestre, pas d'extraterrestre non plus.
Pas pour le moment, hein. J'avais des idées de nouvelles. Ouais,
et vous, ils sont partis, Laurence. Ouais. Les autres n'en mettent pas, alors, et vous, ils sont partis.
Il faut poser à Laurence.
Bah oui. Et pourquoi ils sont partis, alors que, ou les trois
le nous en parlent. Il y en a, dans le tournoi, il y en a. Mais à l'essentiel.
Moi, j'ai trouvé un extraterrestre.
Ah.
Ça parle beaucoup d'extraterrestres, oui, d'une autre civilisation, d'une autre compréhension, d'une autre interprétation de la réalité. Oui, c'est un thème de compliqué.
C'est un thème suisse. La compréhension vis-à-vis des autres et une autre réalité. Un pays ouvert. Un pays qui inspire ce genre de choses pour un écrivain.
Moi, j'ai aucune idée. Vraiment, je ne me suis pas positionnée par rapport à ça.
Alors, ça vient d'où votre passion pour imaginer? Ça vient des auteurs classiques, ça vient d'une culture classique de genre ou...
Je pense que toute petite, je mettais déjà en scène des extraterrestres ou des personnages remarquables, c'est-à-dire qui étaient différents, qui étaient hors normes, en fait. Et que ce soit des extraterrestres ou d'autres types de personnages, j'aime quelque chose qui est hors de la norme. Donc les extraterrestres, pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans le sujet, c'est-à-dire de peindre quelque chose qui est différent. Et l'extraterrestre, il est là. Vous pouvez prendre toutes sortes de caractéristiques physiques ou psychologiques, etc. Donc, pour moi, ça me ravit, en fait, les domaines.
Et bien voilà, quatre auteurs de science-fiction, quatre types d'univers que vous pouvez découvrir dès ce soir pour Luca Moreno avec Singulier Pluriel, son premier recueil de nouvelles. Adriana Lorusso, deux romans de science-fiction dans le même univers, et demain, le recueil de nouvelles, la nouveauté, sera sur les tables. Laurence Senner, une trilogie qui débute par Vestige, donc ce premier roman paru à La Talente. La Talente est d'ailleurs suffisamment sérieux, j'imagine, pour ne pas se lancer dans une trilogie sans avoir été enthousiasmé par le premier. Donc pour ça, c'est très bon signe et je suis impatiente de l'avoir lu moi aussi. Et puis, on avait déjà vu la qualité de Sinis, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir la nouveauté Mimosa. Vous pouvez retrouver quelques minutes nos auteurs pour signer leurs ouvrages. Et puis après, on se retrouvera évidemment avec grand plaisir dès demain matin. Merci.
Merci.
On y met un débat, là, donc on n'a pas lu la plupart des livres, c'est un peu compliqué. Mais vaut mieux dire la vérité au lecteur. Non, il y a des gens qui viennent s'en occuper, on s'occupe de rien. On laisse le petit personnel durant la. Non, c'est les collaborateurs et collaborateurs. Ah bah bien sûr.
Ah bah, pour l'enlever, c'est nickel. Tu mets des silences à la place.
On donne un exemple. Mais c'est peut-être pas toi, c'est pas ça. Si c'est pas cela.
Non, mais en fait, il faut le.
C'est pas moi qui l'ai fait. Donc il est venu en emprunter un, je pense, le lecteur. Ah bah c'est son boulot, mais j'ai quand même le prendre par sécurité.
Ouais, voilà. Au cas où lui, c'est jamais tu me le donnes maintenant parce que ceux-ci sont loin.
Ah oui,
puis
c'est un peu.
Oui,
c'est
pas le. Ouais, essaye, tu verras.
Non, en fait, ça va. Oui, c'est mieux comme ça.
Anthony.
Oui, oui. Anthony. Hein? Vaut mieux éviter les problèmes avec les gosses.
Alors que j'ai diffusé. Bah, t'as que je me concentrer sur un truc.
Non, c'est bon. Je viens me concentrer.
Ouais, que c'est parce qu'il faudrait que ce soit un pas tagué.
Ah, d'accord. Merci beaucoup.
Ouais, merci.
C'était pas évident, mais on s'en est tiré finalement. C'était... Je suis même pas aperçu de l'heure qui passait. Parce que j'ai un œil qui rappelle quand il nous reste. Bingo, on arrive à la fin.
C'est pas grave quand ça va être une discussion comme ça.
Oui, il va finir de se rattraper. J'ai préféré dire la vérité au lecteur.
Monsieur Blanc,
si j'ai une demi-heure préparée, je peux cacher. Mais là,
il y a un dictaphone qui tourne.
Je sais pas, c'est à qui ça.
C'est le QSF.
Ah, je sais pas.
Jérôme Vincent, il a fait des choses inavouables.
C'est pas normal qu'il soit là. Faudrait peut-être l'emmener, ça, par contre. Parce que là, et le laisser à l'accueil, dire qu'on l'a trouvé, à mon avis, c'est quelqu'un qui
l'a. Tu viens avec moi, je te donne un bouquin.
Ouais.